Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 16 octobre 2023. En Côte d'Ivoire, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mengré, a été nommé Premier ministre en remplacement de Patrick Hachi.
Mais au regard du profil de M. Robert Beugré-Mengré, on peut s'attendre à un gouvernement de technocrates.
Les précisions dans un instant avec notre correspondant dans la capitale ivoirienne. L'Union européenne et les États-Unis dénoncent la répression des manifestations à Madagascar. Au Proche-Orient, pas de trêve pour une entrée de l'aide à Gaza, menace de catastrophe humanitaire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est retourné en Israël après une tournée dans 6 pays arabes visant à coordonner les efforts contre le Hamas. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Au Mali, la MINUSMA a indiqué avoir commencé aujourd'hui à se retirer de 2 de ses camps dans la région de Kidal. Dans un climat de haute tension, la MINUSMA a entamé le processus de retrait de ses camps dans les villes de Tessalit et de Dagelok, a dit la mission dans un communiqué ajoutant qu'elle pourrait accélérer son retrait d'un troisième camp, celui de la ville de Kidal même. En Côte d'Ivoire, l'ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beugré-Mengré, a été nommé Premier ministre par le président ivoirien Alassane Ouattara, une nomination qui surprend plus d'un, car ce dernier n'a jamais occupé de poste ministériel dans les précédents gouvernements. Les détails avec notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomenio.
Robert Beugré-Mengré, 71 ans, occupe désormais le poste de Premier ministre de Côte d'Ivoire. L'ancien président de la Commission électorale indépendante était depuis 2011 le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Sa nomination est plutôt bien accueillie à Abidjan. Willy Herman Boisseux, étudiant.
Monsieur Robert Beugré-Mengré, il a un très bon profil autant pour moi. Pour être Premier ministre de la Côte d'Ivoire, il a été président de la Commission électorale indépendante, il a été directeur général du port, il a été aussi gouverneur.
Diplômé de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro, Robert Beugré-Mengré est considéré comme un technocrate. Sa nomination donne déjà une idée de comment sera constitué le nouveau gouvernement. Geoffroy Julien Kouao, analyste politique.
On peut s'attendre à un gouvernement de technocrates. Donc ce sera un gouvernement certainement de mission, composé de technocrates, mais aussi de politiques.
Marié et père de 4 enfants, Robert Beugré-Mengré succède à Patrick Hachi, qui était à la tête du gouvernement depuis 2021. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique. Abidjan. Une communauté
de destin. Les forces de sécurité guinéennes ont arrêté aujourd'hui une douzaine de journalistes et dispersé à l'aide de gaz lacrymogène lors d'une manifestation à Conakry. Le syndicat de la presse privée de Guinée avait appelé à une marche pour réclamer la levée des restrictions imposées au site Guinée Matin. Les journalistes arrêtés ont été déférés au tribunal pour participation à un attroupement illégal. La junte a interdit les manifestations en 2022. 4 associations de presse ont dit dans une déclaration conjointe qu'elles condamnent ces violences gratuites commises contre des journalistes et exigent leur libération immédiate et sans condition. Suite à la répression des manifestations à Madagascar, les États-Unis et l'Union européenne dénoncent l'usage disproportionné de la force pour disperser les marches de l'opposition à un mois de l'élection présidentielle. Les détails avec Dilidico.
L'Union européenne, les États-Unis, les ambassades de Suisse, du Japon, de France, du Royaume-Uni, d'Allemagne et de Corée du Sud expriment dans un communiqué commun leurs préoccupations à l'égard du climat politique dans la grande île de l'océan Indien. La Cour constitutionnelle a reporté d'une semaine le premier tour du scrutin du 9 au 16 novembre suite à la blessure au visage d'un candidat. André Raboel a reçu un éclat de grenade lacrymogène lors d'un rassemblement de l'opposition dispersé par les forces de l'ordre. L'élection à laquelle le président sortant André Rajoel se présente se prépare dans un climat tendu. Depuis le début du mois, l'opposition dénonce une machination du pouvoir pour favoriser Rajoel. « Il faut aller jusqu'au bout », a déclaré l'ex-président et candidat à l'élection, Marc Ravalomanan, lors d'une manifestation à Antananarivo, organisée à l'appel du collectif des 11, Alliance des candidats de l'opposition.
Le Tchad a appelé aujourd'hui à une plus grande solidarité internationale pour l'aider à nourrir et soutenir sa population et les nombreux réfugiés qu'il accueille, dont 460 000 personnes ayant fui la guerre au Soudan cette année. Environ 2,1 millions de personnes souffrent aujourd'hui d'insécurité alimentaire sévère au Tchad, peinant à avoir un repas par jour selon le Programme alimentaire mondial qui décrit une situation catastrophique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les efforts diplomatiques pour instaurer un cessez-le-feu et permettre l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza ont échoué. Israël ordonne l'évacuation de villages situés dans une bande de territoire près de sa frontière avec le Liban. Alexandrine Ollognon.
Israël a déclaré que plus d'un million de personnes vivant dans la moitié nord de l'enclave doivent se rendre dans la moitié sud pour leur propre sécurité. Des dizaines de milliers de personnes ont fui, mais les Nations Unies estiment qu'il n'est pas possible de déplacer autant de personnes sans provoquer une catastrophe humanitaire. Le Hamas leur demande de rester sur place. Les efforts diplomatiques se sont concentrés sur l'acheminement de l'aide à Gaza par le point de passage de Rafah avec l'Égypte, la seule voie de sortie qui ne soit pas contrôlée par Israël. Israël a affirmé qu'aucune trêve n'est en cours pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Il reste 24 heures d'électricité, d'eau et de carburant à Gaza. Et si de l'aide n'y entre pas, les médecins n'auront plus qu'à préparer les certificats de décès, a déclaré Ahmed Al-Mandari, directeur de l'OMS pour la Méditerranée orientale basée au Caire. Le président russe Vladimir Poutine s'est inquiété de l'augmentation du nombre de victimes civiles à Gaza et d'une éventuelle escalade du conflit en une guerre régionale.
Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir ce soir à 22h GMT pour se prononcer sur le conflit entre Israël et le Hamas. La Russie a fait circuler ce vendredi aux États membres du Conseil un projet de résolution qui sera soumis au vote et qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté et à un accès humanitaire sans entrave à la bande de Gaza. Le Brésil, qui préside ce mois-ci le Conseil, va également soumettre un texte qui condamne les attaques du Hamas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est de retour en Israël ce lundi dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient après l'attaque du Hamas en Israël. M. Blinken a eu des entretiens dans quatre des cinq États arabes qui entretiennent des relations diplomatiques avec l'État hébreu et il s'est également rendu en Arabie Saoudite. Eric Manirakiza.
M. Blinken a atterri de nouveau à Tel Aviv et s'est directement rendu à Jérusalem pour s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le ministre israélien de la Défense a déclaré ce lundi au secrétaire d'État américain Anthony Blinken que la guerre contre le Hamas serait longue mais victorieuse. Washington a nommé un coordinateur chargé de diriger l'aide humanitaire à Gaza, l'ambassadeur américain à la retraite David Starfield, attendu ce lundi en Israël. Selon des responsables américains, M. Blinken a entendu une large opposition au Hamas de la part des dirigeants lors de sa tournée, mais aussi des inquiétudes concernant le sort des Palestiniens. Ce déplacement survient alors que le président américain Joe Biden envisage de répondre à une invitation à se rendre en Israël pour démontrer ce qu'il décrit comme une solidarité inébranlable.
La Chambre américaine des représentants entame une semaine cruciale dans sa quête d'un nouveau président avec un vote prévu demain mardi, l'institution étant paralysée par une querelle intestine entre républicains. Pas de speaker, pas d'enveloppe pour l'Ukraine ni pour Israël, pas non plus de vote sur le budget de l'État fédéral qui expire le 15 novembre. Le président russe Vladimir Poutine va rencontrer son homologue chinois Xi Jinping mercredi en Chine, 7 mois après un sommet à Moscou. La rencontre se déroulera en marge du 3e forum international, la ceinture et la route, et les deux hommes d'État tiendront des discussions en marge de cette réunion. L'opposition centriste pro-européenne en Pologne, menée par l'ancien président du Conseil européen Donald Tusk, a remporté la majorité aux élections législatives de dimanche, selon des résultats partiels publiés lundi. Après le dépouillement de 80% des bulletins de vote, les résultats montrent que le parti populiste au pouvoir, Droit et Justice, est en tête du scrutin, mais sans majorité avec 37% des votes. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
En Côte d'Ivoire, des pluies combinées à de longues périodes ensoleillées dans la plupart des régions productrices de cacao ont favorisé le développement de la récolte principale d'octobre à mars, ont déclaré les agriculteurs ce lundi. La plupart des cultivateurs se disent satisfaits de la quantité de pluie tombée jusqu'à présent et s'attendent à ce que la récolte de cette saison soit plus abondante que celle de la saison dernière. La Zambie a conclu un accord de restructuration de sa dette avec ses créanciers étrangers, indique son ministre des Finances, Situmbeko Musokotwane. Une fois achevée, la restructuration de la dette, évaluée à 32,8 milliards de dollars, va libérer des ressources vitales pour que Lusaka investisse dans son programme de développement, a déclaré le ministre zambien des Finances. Pour terminer, les États membres du FMI ont accepté d'augmenter leur contribution au prêteur mondial et d'accorder un troisième siège à l'Afrique au sein de son conseil d'administration, a annoncé le FMI samedi à Marrakech, au Maroc. Ces deux points faisaient partie des objectifs affichés des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se tiennent pour la première fois depuis 1973 sur le continent africain.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Qualification Euro 2024, la nationale prêt à dépasser les limites contre l'Angleterre.
Le sélectionneur de l'Italie, Luciano Spalletti, a prévenu ses joueurs qu'ils devraient dépasser leurs limites lors du match de qualification à l'Euro 2024 contre l'Angleterre, demain mardi à Wembley. L'Italie vient raviver les fantômes de Wembley 2 ans après son triomphe en finale à Londres, mais l'Angleterre a abordé la revanche avec Jude Bellingham, un talent effrayant de 20 ans sur lequel repose l'espoir d'un titre. Ce joueur très spectaculaire et très intelligent a surpris jusqu'à son entraîneur Carlo Ancelotti et nous fait oublier qu'il a 20 ans, a constaté l'Italien. Le public de Santiago Bernabeu s'enthousiasme pour sa nouvelle idole en reprenant à tue-tête « Hey Jude ». Célèbre chanson des Beatles sortie en 1968, soit 2 ans après le mondial de 1966 gagné à la maison par l'Angleterre. Le milieu de terrain a grandi plus vite que les autres depuis le 11 juillet 2021, à la terrible désillusion d'une finale perdue au tir au but à domicile devant la Nationale.
Le foot français retient son souffle devant les enchères pour les droits de télévision.
La Ligue de football professionnel LFP et les clubs français vont être fixés demain mardi sur l'identité des candidats aux enchères pour les droits de diffusion à la télévision de la Ligue 1. L'objectif du milliard d'euros par an pour le total des droits domestiques et à l'étranger sur la période 2024-2029, fixé cet été par le président de la LFP, s'est matérialisé par une mise à prix à 800 millions d'euros par saison pour les seuls droits domestiques le 12 septembre. L'appel d'offres pour l'étranger a été lancé le 6 octobre avec une date butoir le 2 novembre.
Basketball NBA, Wembanyama au repos pour le match des Spurs face aux Rockets en pré-saison.
Après 2 matchs de préparation probants, Victor Wembanyama sera laissé au repos pour la réception des Houston Rockets lundi, ont annoncé les San Antonio Spurs dimanche. Le Français de 19 ans qui suscite des attentes immenses a brillé lors de ses 2 premiers matchs de pré-saison à Oklahoma City mardi, 20 points, puis face à Miami vendredi, 23 points, les 2 fois à grand renfort d'action spectaculaire. La franchise texane entraînée par Greg Popovich accueillera une nouvelle fois les Rockets mercredi avant d'achever sa préparation à San Francisco face aux Golden State Warriors de Stephen Curry vendredi. La saison NBA débute le 24 octobre avec un premier match pour les Spurs le 25 à domicile face à Dallas.
Page des sports VO Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les États-Unis ont renouvelé leur appel pour que les civils innocents fuyant la guerre entre Israël et le Hamas soient protégés et que leurs besoins essentiels soient satisfaits. Par ailleurs, par crainte d'un conflit régional plus large, un sénateur américain a lancé un avertissement sévère contre l'Iran et la milice libanaise Hezbollah. Les explications de Véronica Balderas, Iglesias de la VOA, récit Gabi Dorsil.
Les forces de défense israéliennes ont souligné leur détermination à détruire le Hamas dans son intégralité suite à l'incursion meurtrière du groupe militant en Israël le 7 octobre. Elles ont également renouvelé leurs appels aux civils palestiniens pour qu'ils évacuent la partie nord de Gaza avant que les frappes israéliennes ne s'intensifient. Le porte-parole des FDI, le lieutenant-colonel Peter Lerner, a été interviewé sur la chaîne télé ABC.
Nous constatons que les gens évacuent effectivement. En effet, nous aimerions voir les organisations humanitaires aider à l'évacuation des personnes pour leur bien-être et ne pas se ranger du côté du Hamas qui leur dit de ne pas évacuer.
Plus d'un million de civils palestiniens tentent de se mettre à l'abri. Les États-Unis travaillent avec leurs partenaires pour s'assurer que les besoins humanitaires des personnes déplacées sont satisfaits, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, lors de l'émission This Week, également sur ABC.
Nous sommes en contact avec nos homologues israéliens, avec les Nations Unies, pour aider à assurer l'approvisionnement nécessaire en nourriture, en eau et en médicaments pour les citoyens de Gaza, ces Palestiniens qui n'ont rien à voir avec les terroristes barbares qui ont perpétré cette attaque.
Les échanges de tirs se sont poursuivis ce week-end à la frontière israélienne avec le Liban, où opère le Hezbollah, une milice soutenue par l'Iran. Le sénateur républicain Lindsey Graham, qui prévoit de se rendre dans la région dans les prochains jours avec un groupe de collègues démocrates et républicains, a lancé une sévère mise en garde contre Téhéran et ses alliés qui auraient l'intention de jouer un rôle plus actif dans le conflit.
Si le Hezbollah, qui est à la solde de l'Iran, lance une attaque massive contre Israël, je considérerai qu'il s'agit d'une menace existentielle pour l'État d'Israël. Je présenterai une résolution au Sénat américain pour permettre une action militaire de la part des États-Unis en collaboration avec Israël afin d'éliminer l'Iran du marché du pétrole. Iran, si vous intensifiez cette guerre, vous deviendrez notre cible.
We're coming for you.
Dans le cadre d'une tournée régionale visant à désamorcer les tensions, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré dimanche le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi. Ils ont tous deux convenu de l'importance de garantir l'assistance aux civils palestiniens fuyant la guerre, selon le porte-parole Matthew Miller. Anthony Blinken poursuit ses consultations avec les dirigeants de la région.
Après le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, de nombreux chefs de diplomatie se sont également succédés au Caire, ainsi qu'en Israël. Tous appellent à mettre fin au conflit, à éviter son débordement régional et dans l'immédiat à dégager des corridors humanitaires et des passages pour l'aide vers la bande de Gaza, bombardée sans relâche par Israël. L'Égyptien, l'unique terminal vers et depuis Gaza, qui n'est pas contrôlé par Israël. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint Mohamed El Sayed El Azawi, directeur du journal Le Progrès au Caire.
On est tellement triste, déprimé au Proche-Orient quand on voit ces scènes de violence vis-à-vis des civils, précisément femmes et des petits enfants.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est passé au Caire et a rencontré le président Al-Sisi. Qu'est-ce que les autorités égyptiennes ont promis à M. Blinken?
Le président Sisi a dit clairement que l'Égypte soutient les Palestiniens et la cause palestinienne et établir et instaurer la paix selon les lois des ONU, des Nations Unies, qui consiste à établir deux États indépendants qui vivent côte à côte en pleine paix et en pleine sécurité. Pour faire ça, il faut toujours mettre en considération les innocents civils palestiniens. Pour délivrer, pour faire accéder les aides humanitaires pour les Palestiniens qui souffrent maintenant actuellement du bombardement, l'Égypte a précisé qu'il faut faire entrer les aides humanitaires pour le côté palestinien. Et également, on est prêt à recevoir les ressortissants américains et étrangers entre guillemets qui veulent traverser vers l'Égypte pour retourner vers leur pays. Et également, le président Sisi a dit clairement que toute résolution et toute solution de cette crise et ce problème ne doit être jamais ni au détriment de l'Égypte ni au détriment des droits légitimes des Palestiniens. Il y a des négociations en cours entre l'Égypte et les États-Unis et les Palestiniens et Israël pour trouver, on dit, un consentement, un consensus pour faire entrer les aides humanitaires en même temps. L'Égypte est complètement contre toute immigration. Comme on dit, le transfert du peuple palestinien vers le Sinaï, l'Égypte est complètement contre cette option et a rejeté ça ouvertement.
L'Égypte a proposé un sommet régional international sur l'avenir de la cause palestinienne. Ce sommet va se tenir samedi, mais ce n'est pas pour occulter les crimes commis par le Hamas.
Ce qui a fait Hamas avec les Israéliens. Pour nous, en tant qu'Arabes, on est complètement contre les actes de violence contre les civils des deux côtés. Mais ce qui s'est passé, c'est la cause d'une accumulation de souffrance d'un peuple qui a longuement souffert. Ça fait plus de décennies. Des décennies, ils ont souffert pour des actes, comme on l'appelle, des pratiques du côté israélien. C'est le résultat d'une accumulation des années de souffrance. L'Israël a droit de se défendre, de se protéger, c'est clair. Mais il a également procédé à des pratiques violentes contre les Palestiniens. Ça fait déjà des décennies.
Mohamed El Sayed El Azaoui, directeur du journal Le Progrès, dans la capitale égyptienne.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Burkina Faso, voilà maintenant 36 ans que le père de la révolution, Thomas Sankara, a été assassiné. C'était le 15 octobre 1987. Et hier, le pays tout entier a célébré cet anniversaire. Plusieurs hommages ont été rendus au capitaine Sankara de Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Au mémorial Thomas Sankara, situé en plein cœur de Ouagadougou, au Conseil de l'Entente, c'est où le capitaine Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987. Et c'est aussi là qu'un hommage lui a été rendu. Le capitaine Ibrahim Traoré est lui-même présent. Les partisans du capitaine Thomas Sankara estiment qu'il a été un homme digne qui s'est sacrifié pour son peuple. Passambe Sawadogo dit Océan, musicien, sympathisant de Sankara.
J'ai au moins deux chansons consacrées à Thomas Sankara. En tout cas, je ne fais pas un album sans faire un clin d'œil à ce grand homme Thomas Sankara. Le 15 octobre est une date, en tout cas à sentiment, j'allais dire contradictoire pour ne pas dire entremêlée. Autrefois, cette date était une date de douleur, de tragédie, mais maintenant nous voyons que c'est une date d'espérance pour le peuple burkinabé, le peuple d'Afrique et le peuple du monde.
Fatou Souratier, une militante de la société civile, elle se présente comme une héritière de Thomas Sankara.
Je suis héritière de Sankara parce que je suis née sous la révolution. J'étais bébé sous la révolution, j'avais 2 ans sous la révolution, mais j'ai appris à connaître l'homme. Et quand on l'a assassiné en 87, avant son assassinat, il a dit « tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront ». Moi, j'étais déjà née et j'ai grandi dans cet héritage-là et je m'accapare en fait cet héritage. Donc voilà pourquoi je me présente comme héritière du capitaine Sankara.
Thomas Sankara a été élevé au rang de héros national par le capitaine Ibrahim Traoré. Luc Damiba, secrétaire général du comité international mémorial Thomas Sankara.
C'est d'abord une injustice faite à Thomas Sankara, le pari, de 36 ans. Il y a à peu près moins de 36 ans, son tombeur avait promis une tombe digne de son nom. Son tombeur avait promis de l'élever au rang de héros de la nation. Pendant 27 ans, rien n'a été fait. Au contraire, tous ceux qui voulaient parler de Sankara étaient persécutés. Aujourd'hui, nous sommes heureux que Sankara renaît, que désormais, c'est le siècle de Sankara qui s'ouvre. Parce que là où il était, au 20e siècle, il est arrivé. Il a eu un impact pour sa génération de 4 ans. Mais son acte de 4 ans va rester indélébile pour des centaines d'années.
Le président de la transition a lancé les travaux de la construction du prochain mausolée dédié à Thomas Sankara et ses 12 autres compagnons assassinés. Au moins une quinzaine d'infrastructures seront réalisées pour le compte du mémorial Thomas Sankara. Une des principales avenues de la capitale qui portait le nom de Charles de Gaulle a été débaptisée et rebaptisée Thomas Sankara. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Bénin, les traditions ne se perdent pas. L'une des plus tenaces et des impressionnantes est celle de la flagellation propre à la communauté Peul dans le nord du pays. Nous allons à la découverte de ce rite à travers ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Ces cris sont des manifestations de joie devant la bravo d'un jeune homme qui a reçu sans broncher les coups de fouet, signe de son passage à l'âge adulte. Gounou Roland Lafia, président du comité d'organisation de la GANI, une fête identitaire au cours de laquelle la flagellation reste une des plus grosses attractions.
Ce n'est pas seulement ludique, parce que ça permet de se mesurer entre jeunes, souvent entre jeunes prétendants. Et c'est tout un long processus. Il démarre, c'est un individu vient implanter, n'est-ce pas, le fouet et l'annonce pas dans toutes les contrées. Et celui qui se sent capable fait le déplacement et vient arracher le fouet.
Acte de bravoure et de courage, la flagellation est un rite de passage chez les Peuls dans le nord du Bénin. Un jeune qui désire avoir le respect des jeunes filles et la considération des sages doit passer par l'épreuve du fouet. Cheikh Ahmed se réjouit de savoir que les jeunes sont conscients des valeurs à promouvoir.
C'est une question de courage. Et tu me frappes, je te frappe. Et celui qui désiste, il n'est plus la bienvenue. Même devant les femmes, quand il vient doter, on dit non, lui là, il a trop peur. C'est un peu heureux. Et si vous arrivez à avoir le courage, c'est un acte de bravoure. On dit les courageux. Même la plus belle femme du quartier, on peut vous la donner.
La séance de flagellation draine souvent du monde. Certains parcourent des centaines de kilomètres pour y assister. Parmi les spectateurs, il y a ceux qui viennent regarder une épreuve de courage. Il y a également ceux qui considèrent qu'au nom du courage, on ne saurait accepter des châtiments corporels.
C'est ça qui montre qu'il est très garçon. C'est pas qu'il ne sent pas mal, mais il montre que même si c'est comment, lui peut rester comme ça, il va sourire même. C'est parce que c'est l'air clôtier.
C'est impressionnant parce qu'on rencontre vraiment une culture très forte et très riche. Et j'espère que vous arriverez à perpétuer toutes vos coutumes et qu'elles continueront à vivre comme vous le faites.
Encore appelée Goga, la fête de la flagellation a ses propres interdits. Certaines parties du corps ne doivent jamais être touchées par le fouet.
On ne touche pas les parties intimes, on ne touche pas le visage. C'est juste le tronc et c'est devant les jeunes dames, les jeunes filles.
De façon morale, c'est une satisfaction. Pour celui-là qui arrive à tenir devant son challenger, donc déjà lui c'est une fierté et ça se montre hein, lorsque ces personnes-là se retrouvent face à des dulcinés, c'est des preuves hein, qui permettent quand même à pouvoir gagner facilement le cœur de l'âme sœur.
Autrefois rituel sacré, la flagellation de nos jours a quelque chose de spectaculaire et n'est plus une histoire d'ethnie. Elle est souvent organisée à des occasions exceptionnelles, mais qu'importe la circonstance, elle reste un défi que les jeunes veulent encore relevé à tout prix. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïba. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.